Kafka, c'est un auteur qui a beaucoup inspiré de nombreux auteurs de bande dessinée, que ce soit des adaptations, des citations ou même de l'inspiration. On parlait de Marc-Antoine Mathieu, son personnage phare Julius Corentin Akefak. En fait, c'est Akefak, c'est Kafka, c'était à l'envers. Et parmi toutes ces adaptations, celle qui m'a le plus interpellé, c'est celle d'Olivier Després. Olivier Després qui a fait une adaptation donc en gravure sur bois de 230 pages. Et la radicalité de sa technique posait vraiment question. Et de plus, en recherchant un petit peu la genèse de ce projet, il s'est apparu qu'il a essayé différentes formes, différentes voies esthétiques pour arriver à cette adaptation. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas posé seulement la question de retranscrire une trame narrative, la trame narrative du château en bande dessinée, mais s'est aussi posé la question de comment essayer de faire transparaître le style de l'écriture de Kafka à travers le style de dessin. Donc en fait, je vais comparer deux adaptations, une première qui a été finalement abandonnée, mais qui est radicalement différente de la seconde en gravure sur bois. Donc voilà, très rapidement, Olivier Després, c'est un auteur donc, qui a participé à l'émergence de ce qu'on appelle assez mal proprement la bande dessinée d'auteur dans les années 90, et qui était belge, donc qui a créé Frigo Revue en 92, Fréon en 94, et qui a donné au final... Frémok en 2002, qui était la fusion en fait des structures éditoriales Amok et Friant. Mais au sein de tous ces auteurs-là, toute cette génération d'auteurs, c'était le seul qui était vraiment imprégné de théorie, une théorie de l'esthétique. Il a écrit beaucoup d'articles et notamment beaucoup travaillé avec Ian Battens. Ah oui, je dirais souvent peut-être Després, mais c'est Després qu'il faut dire. Pendant des années, j'ai dit Després, mais.
Deprez.
Très bien.
Alors, presque.
Deprès. Bon, il faudra penser à Deprès alors quand je dirais de fausses prononciations. Donc voilà, donc cet auteur l'appelait un peu comme le chaman du savoir. Bon, on y reviendra plus tard, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc très rapidement aussi pour situer l'histoire du château. Le château suit les aventures d'un personnage prénommé K qui va se battre pour entrer en interaction, en contact avec les autorités du village où il vient d'arriver afin d'officialiser son statut d'arpenteur. D'arpenteur qui est en fait le géomètre de l'époque. Mais finalement, le château où résident les fonctionnaires demeurera inaccessible. Donc, voilà. Donc, pour adapter le château, Deprès a eu beaucoup de mal à trouver, comme ils disent, sa forme, la forme heureuse de ce livre. Il a commencé en 1995 avec, c'était seulement deux pages, où il reprenait les pages liminaires du château, donc l'arrivée de K au village. Donc là, on voit qu'il voyait à travers la vitre le café. Donc là, on voit qu'il joue beaucoup sur la transparence, en fait, de la sérigraphie. Il y a des images qui sont relativement douces, et les personnages sont un peu mystérieux, mais il y a quand même une atmosphère assez calme. Ensuite, c'est en 1995, dans Frigo Box 3, Frigo Box qui était le fanzine édité par Fréon, que va commencer ce que j'appelle la première adaptation du château, qui va durer pendant 52 pages, qui sera découpée en chapitres, et qu'il abandonnera par la suite. Après qu'il ait abandonné dans cette première version, il réessayera de faire une adaptation qui, elle, sera très courte, qui sera prénommée une rencontre, donc il n'assumera pas vraiment cette reprise-là, mais c'est une façon de résumer en trois pages, en fait, le château. On voit encore une fois qu'il reprend les premières pages, l'arrivée du personnage au château, dans le village, excusez-moi. Dans les années 2000, dans le magazine dont je ne prononcerai pas le nom, par difficulté, on voit qu'il reprend la gravure sur bois, c'est les premières planches avec lesquelles il a trouvé cette technique. Et ce qui donnera finalement, ça c'est la matrice du château de Kafka, publié en 2003. Il faut aussi dire que le château de Kafka, en 2003, c'est son tout premier livre. C'est-à-dire que même s'il a commencé à publier dans énormément de revues à l'époque, dans les années 90, c'est son premier ouvrage publié. Donc c'est pour dire l'importance qu'a eu ce livre pour lui. On verra qu'en fait, ça a été une façon pour lui, cette adaptation, de trouver aussi sa voix d'auteur, son style d'auteur. Donc, il a repris continuellement cette première scène. Voilà, cette première scène. Et c'est pas justement une façon de répéter toujours la même chose, il dit que c'était quelque chose qui le retenait intensément. Je cite, « Je peux même dire que non seulement je me suis identifié au personnage central du roman, mais que, de plus, je me suis arrêté avec lui sur ce pont qu'il franchit avant d'arriver au village. Il y a là la description d'une contemplation qui est extrêmement hypnotique. K lève la tête et regarde le vide. Souvent, je me demande si le travail de gestation et de création du livre, qui a duré vraiment très longtemps, une huitaine d'années, n'est pas lié à cet état d'hypnose dans lequel cette contemplation romanesque et métaphysique m'a plongé. Ensuite, je n'ai plus pu me détacher du livre. » Donc, cette condition d'hypnose, c'est quelque chose qui a vraiment déterminé un petit peu cette adaptation. Donc, nous allons parler de la première adaptation. Donc, son style de dessin. Alors, avant sa mort, avant la mort de Kafka, donc en juin 1924, l'écrivain a demandé à son exécuteur testamentaire et fidèle ami Max Brod de détruire et brûler tous ses manuscrits, tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il a pu écrire ou dessiner. Heureusement pour nous, Max Brod n'a absolument pas été fidèle à la parole de son ami, et c'est comme ça qu'on lui doit quasiment toutes ses œuvres posthumes qui constituent la plupart de son œuvre. Mais aussi, on a pu découvrir de nombreux dessins. Quelqu'un qui avait une vraie pratique du dessin, il dessinait ses rêves, et parfois le dessin était une façon d'embrayer à l'écriture. Parfois, il avait du mal à écrire, donc du coup, il dessinait dans des petits endroits, et puis il reprenait. C'est quelque chose qu'on voit vraiment dans ses manuscrits. Pour voir un petit peu ce dessin, je vous conseille le livre Le regard de Kafka, de Jacqueline Sudaka Benazeraf, qui a vraiment reproduit un petit peu tout ça. Donc, on peut voir qu'il y a une parenté graphique, notamment donc dans le noir qui emplit les silhouettes autant qu'elle les dessine. Il y a aussi le blanc qui entoure les personnages. Donc, on voit bien que les personnages de Kafka sont délimités par des blancs, par des espaces. Ils semblent renfermés, tout comme le dessin d'Olivier Depré. Donc, d'une certaine façon, Olivier Depré essaie d'être au plus proche de la main de l'écrivain, de retrouver les circonvolutions de son poignet, retrouver sa véritable empreinte graphique. D'une certaine manière, c'est le corps de Kafka qu'il essaie de convoquer à travers cette technique graphique. Donc voilà, donc il pose un univers graphique, qui va être donc l'univers diégétique du roman. Donc il va garder cette homogénéité du dessin comme univers stable, mais il va y introduire 2-3 citations en fait à la modernité artistique, et particulièrement l'abstraction picturale. Et ça se déclenche par exemple à cette scène où à un moment du récit, K rentre dans une maison où il est très très fatigué, et là on perd totalement la notion d'espace. On voit bien que les frontières sont gommées, on ne les voit plus, on est dans un espace irréel qui n'est plus limite. Aussi, les volutes de fumée blanche, qui contrastent beaucoup avec le noir, permettent aussi de distinguer ces personnages très droits, très raides, qui sont, eux, des citations très directes à l'abstraction picturale. Donc là, on voit bien la forme de la femme de Malevich, la femme Orato, qui est une série de peintures qu'il a fait aussi avec les sportifs, où il divisait les personnages selon un axe de symétrie. On retrouve aussi les compositions de Mondrian après. Vous voyez là au début, on a vraiment les figures en deux qui commencent à se désorganiser, et puis on retrouve certaines formes de Mondrian. Et puis après un petit peu Delaunay dans la répétition de la forme par sa négativité. Donc tout ça, ça inscrit donc une rupture par rapport à l'esthétique graphique qu'on pourrait rapprocher un petit peu à ce que Freud décrit comme l'intricatante étrangeté, qui est juste une rupture par rapport à la rationalité du quotidien. Mais c'est vraiment à partir du chapitre 3 que la BD va être complètement contaminée par la modernité, donc par la peinture abstraite. Donc là, on voit, c'est la toute première page, on voit que déjà Depré ne dessine que les visages de ses personnages. C'est-à-dire, d'une certaine façon, il abstrait les visages de leur corps qui flottent dans l'espace. Puis, dans la dernière case, on voit bien que les personnages deviennent elles-mêmes des compositions abstraites. Après, donc les personnages continuent à être tout à fait abstraits. Donc il y a des conventions qui désignent qui est qui. Donc les bulles qui commencent en haut à gauche sont les personnages, le personnage de K, et à droite c'est Frida, qui est une amie, une personne qu'il rencontre pendant le récit. Puis après dans la figure à droite, on n'a même plus du tout de convention, on a juste un cercle. Donc je vais aller rapidement, mais d'une certaine manière, c'est l'énonciateur graphique qui nous propose, c'est une troisième voie qui se déclare, qui nous propose de vraiment regarder toutes les déformations du dessin. D'une certaine façon, il, même si le lecteur s'en doutait, il lui dit c'est une lecture réflexive, regarde ce qui se passe dans l'image. Puis après, clairement, les cases vont se déformer, vont se détacher, devenir ce que j'appelle des infracases, des cases dans la case, et devenir en fait des motifs. C'est-à-dire qu'on a une case principale, et donc toutes les déformations vont devenir un petit peu des motifs picturaux. Cela va prendre en fait tout le multicadre, toutes les cases qui vont devenir. Et donc le multicadre ne va plus être régi par une lecture, par une disposition de façon à ce que le lecteur puisse suivre le récit, mais bien pour des soucis de composition. On retrouve encore une fois des motifs de l'abstraction picturale. Donc là, c'est une double page qu'on voit à gauche, et à droite, donc des essais de Kubka. Et encore une fois, Mondrian est très présent. Donc ce qu'on peut aussi observer, c'est que la narration est gardée par les bulles. Les bulles restent les mêmes, on arrive à bien les lire, et c'est vrai, il y a une une dichotomie entre le, on va rester là-dessus, une dichotomie entre le récit proprement dit, la trame narrative et le dessin. Donc, la dualité se joue donc entre la part textuelle qui préserve la linéarité du roman et la part graphique envahissante qui impacte l'œil et oriente le récit dans une conscience de la modernité qui devient centrale dans la lecture. Depré confronte ainsi le roman de Kafka avec le contexte philosophique et artistique, donc philosophique par rapport à l'inquiétante étrangeté, et artistique avec toutes ces citations d'auteurs de la modernité qui ont émergé à peu près au même moment. Donc, d'une certaine façon, il mesure l'écriture de Kafka avec le temps, son temps de l'écriture. Mais de plus, en citant le contexte d'écriture du roman, Olivier Depré reprend des motifs à partir desquels l'image dans l'histoire de l'art, donc de la peinture particulièrement, s'est soustraite des conventions de représentation pour aller vers des formes abstraites. Il ranime aussi, ainsi la bande dessinée en inspirant l'esprit de la modernité. C'est-à-dire qu'en bande dessinée, on avait rarement vu encore d'images abstraites. C'est vraiment à partir des années 2000 qu'on va parler de bande dessinée abstraite. De plus, pour Depré, il a souvent cité Kafka comme un des... comme étant en avance sur les conditions collectives de l'énonciation. Donc il a voulu rendre compte de la modernité de l'écriture de Kafka en voulant moderniser en même temps la bande dessinée. Mais cette version ne lui a pas particulièrement plu. Donc il l'a arrêté. Il est allé à la gravure sur bois. Alors pourquoi la gravure sur bois ? C'est une technique qui est assez étonnante, qui est très rarement utilisée en bande dessinée, et parce qu'elle est très contraignante. Donc Jan Battens expliquait que la gravure sur bois est lourde et lente, on grave moins aisément qu'on dessine, elle n'autorise pas le repentir, les erreurs de la main sont difficiles à corriger, elle oblige à imaginer l'image en double inversion. Les lignes qu'on creuse apparaîtront en blanc sur noir, non pas en noir sur blanc, l'orientation gauche-droite sera également inversée au niveau de la planche imprimée. Elle exige qu'on fasse une sélection dans les détails à montrer. La réduction de la palette chromatique à la dialectique du noir et blanc demande des contrastes assez forts qui entravent la recherche d'un dessin uniformément gorgé de détails. Enfin, elle condamne le dessinateur à travailler sans cesse dans l'urgence. Et oui, bon. De plus, moi je rajouterais qu'il y a un véritable effort physique à graver. C'est fastidieux, on grave dans du bois. Il y a des risques de blessures, on peut vraiment se trancher la main. Et en plus, il y a une étape supplémentaire dont il ne parle pas, qui est l'impression de la gravure. Une gravure est imprimée donc sur une lourde presse. Et ceci nous rapporte un autre paradoxe, qui est l'utilisation de la gravure, qui était à la base utilisée pour reproduire des images. C'était la première technique de reproduction des images. Or, la bande dessinée a été imprimée en offset. Donc, sa première utilisation donc, de reproduction est contrariée par cette reproduction-là, ce qui montre qu'il place cette technique-là directement sous le signe de l'esthétique. Mais comment est-ce qu'il en est arrivé ? Qu'est-ce que j'ai après ? Oui, et donc on voit bien aussi dans les premières pages qu'il veut vraiment présenter la gravure sur bois, qu'il la met en avant, notamment en laissant tout le bruit du bois. Ça, ce sont des choses... Alors, je ne sais pas quel bois il utilise exactement, mais par exemple, en encrant beaucoup sa planche, en la gorgeant d'encre, on peut effacer tout ce bruit du bois. Mais lui, il va vraiment l'exhiber comme faisant partie prenante de son énonciation. Ça en viendra après. Donc voilà. Donc, comme j'ai dit auparavant, en introduction, Depré aimait beaucoup lire, écrire sur sa pratique et sur l'esthétique de la bande dessinée. Dans un article publié dans Images and Narrative, donc le regard comme projet intersémiotique, une approche théorique, l'auteur montre comment il travaille à la fois avec son intellect et avec sa main, comment les deux se lient pour trouver le processus esthétique avec lequel il dessine ses albums. Et en lisant différents textes, et en revenant encore une fois à cette scène hypnotique de K, donc, qui est devant qui traverse le pont avant l'arrivée du village, il notait que ce qu'il trouvait étonnant, c'est que Kafka a nommé le château, mais en parlant de sa disparition. Il le nommait en fait en disant qu'on n'arrivait pas à le voir, parce que la brume le cachait, etc. Et donc, de près, en retirait que chaque phrase qui s'écrit procède par l'effacement de l'objet perçu, un peu comme si regarder consistait essentiellement en un acte de retrait. Et c'est là que surgit en fait l'analogie avec la gravure. Quand on grave, on creuse, et donc on fait voir par un prélèvement de matière. Donc il trouve une analogie entre le style, en tout cas de ses premières pages, entre le style d'écriture de Kafka dans ses premières pages, et la technique de la gravure sur bois. Mais plus encore, comme ça, Depré dévoile le style de l'auteur par le truchement de son esthétique et de sa technique. Mais plus encore, ça permettait de rapprocher un courant artistique dont Kafka était beaucoup plus proche que la modernité, que l'abstraction picturale, qui est l'expressionnisme allemand. Il a été très proche d'artistes comme Alfred Kubin. Il a même failli quitter Prague pour Berlin, où l'expressionnisme était plus fort. Et Jacqueline Sueka Benazeraf concluait par « Des dates et des repères montrent que même si les rencontres de Kafka n'ont pas forcément eu lieu là où on voudrait les voir, celui-ci n'en baigne pas moins dans un système de représentation. Son graphisme, ses thèmes, sa technique, son espace de représentation appartiennent à ce mouvement pluriel et hétérogène qu'a été l'expressionnisme. » Donc très très rapidement, l'expressionnisme, c'est un mouvement artistique du début du XXe siècle qui a touché beaucoup d'arts, mais principalement les arts visuels, donc beaucoup le cinéma et la peinture, qui a éclos donc, en Allemagne, principalement après la Première Guerre mondiale. Donc ce sont des représentations qui sont souvent violentes, marquées par l'empreinte de la Première Guerre mondiale. Et souvent, les décors, le style graphique était emprunté, était déformé par les impressions du personnage, par les expressions. Aussi pour David Berona, cette période marque la renaissance de la gravure sur bois comme moyen d'expression artistique, spécialement chez les expressionnistes allemands. À la fin du 19e siècle, la gravure sur bois, avec l'agressivité de ses images en noir et blanc, jouissait d'un regain d'intérêt chez les artistes occidentaux qui s'intéressaient aux maladies sociales d'une culture technologique de plus en plus déshumanisée. Donc là, vraiment, il avait une sorte de complétude avec cette gravure sur bois, qui va se retrouver vraiment dans les images qu'il va produire pour cette adaptation du château. Là, on retrouve les premières pages donc, quand K arrive au village et on voit les visages donc, des personnages qui sont dans la brasserie. Est-ce que vous vous souvenez de la toute première adaptation qui était en gravure sur bois où là, il y avait quelque chose. Là, on voit que les images sont vraiment marquées. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez agressif finalement quand on dessine à la gravure sur bois. C'est-à-dire qu'on attaque le bois, on déchire le bois pour créer l'image. On peut le faire de façon assez simple pour pas qu'on ne le voit, mais là, il veut vraiment montrer que les visages sont tailladés. On a presque l'impression d'être, bon, c'est un peu extrapolé, mais d'être devant des gueules cassées presque. Donc voilà, les images sont agressées, on retrouve toute cette violence de la gravure sur bois. Ensuite, il y a quelque chose, la mort aussi, la mort rôde partout. Par exemple, ce personnage qu'on retrouve en haut, les ronds noirs profonds induisent plus la cavité dessinée par un globe oculaire vide que la représentation stylisée des pupilles. La bouche très basse et dentée accentue cette impression de mort. Les accidents du bois rappellent plus les anfractuosités de l'os que la velouté de la peau. Présent à chaque personnage sera schématisé ainsi, la mort rôde partout. De plus, ça induit aussi des motifs assez abstraits. Desprez attaque le bois, et on ne sait pas si c'est pour dessiner des décors ou bien pour marquer cette agression de l'image. En fait, surtout par rapport à... On voit à ces décors, on ne sait pas vraiment s'il dessine la montagne qui est derrière, ou bien est-ce que c'est pour montrer l'impression qu'avaient les personnages, pour entourer l'image d'une situation assez angoissante. C'est quelque chose, cette technique-là, donc c'est une scène qui se passe en extérieur, mais c'est aussi des choses qu'on retrouvera dans des scènes d'intérieur. Oui, en plus, ce contraste très net entre le noir et blanc, qui n'est pas toujours subordonné à des rapports édictés qui reproduira par la suite, propose des images assez abstraites. Par exemple, là, en fait, on a des maisons, et les toits sont tantôt blancs, tantôt noirs, ainsi que les façades aussi. Donc, il perd le lecteur, tout comme, finalement, K sera un peu perdu dans ce visage, qui sera très anxiogène. Et du coup, on en vient à l'architecture. Donc, l'architecture, la représentation de l'architecture sera très importante dans l'expressionnisme. Donc là, on voit une toile assez célèbre. Et on voit bien qu'aux lignes droites et parallèles des villes modernes, donc venir se confronter les immeubles mouvants et grouillants des peintures expressionnistes. La projection de la subjectivité des artistes déforme la réalité et a atteint la représentation, des bâtiments. Donc on retrouve encore le contraste très fort entre des noirs et des scènes beaucoup plus claires. Les bâtiments sont complètement désordonnés, montrant une sorte d'attitude d'angoisse. C'est quelque chose qui sera aussi beaucoup utilisé par Franz Masrel, qui est un des premiers à faire donc, des romans graphiques. On parlait des graphic novels. Et donc là, dans deux scènes de deux livres différents, le personnage est complètement ivre et on voit bien que son ivriété en fait, se retrouve un petit peu dans les bâtiments qui sont complètement désordonnés. Oui, il y a donc le cabinet du docteur Calibari, où en fait toutes les architectures sont complètement impossibles, jusqu'aux barreaux de chaises, barreaux de fenêtres, on perd toute rationalité. Tout ça, ça introduit donc le fantastique, dans lequel K, l'arpenteur, sera introduit dans le village. Donc là, on retrouve ces architectures complètement débordantes, complètement hautes, spectaculaires, qui sont angoissantes et qui tournent. Donc là, les maisons sont très hautes, on ne voit même plus les portes. Mais surtout, ce qui est frappant, c'est de voir l'évolution de l'architecture, voir comment l'architecture va envahir et devenir menaçante et montrer finalement tout l'aspect anxiogène que peut avoir le village pour K. Donc là, c'est encore une fois l'arrivée de K au village. On voit que les maisons sont assez disséminées, sont plutôt lourdes, relativement calmes. En fait, plutôt agréable. On a l'impression d'un village plutôt chouette. Donc petite balade campagnarde. Mais si on prend une des dernières représentations du village, donc ça c'est vraiment la dernière scène, les maisons ont complètement changé. Elles sont déjà noires, elles sont noires, et puis les portes sont à peine dessinées, on a l'impression presque de tête de mort en fait. Elles sont angoissantes, elles entourent le personnage, et elles envahissent de noir toute cette anxiété qu'il pouvait y avoir. De plus, elles vont devenir complètement labyrinthiques. Ces bâtiments vont finalement, cette représentation des bâtiments va montrer les périples de Kai qui n'arrivera pas à retrouver les personnes, en tout cas les hauts dignitaires qui cherchent. Il va se perdre lui-même dans tous ces méandres-là. Et ces méandres-là vont être donc repris par cette représentation du labyrinthe qui est donc représenté dans les maisons, mais aussi dans des motifs typiquement labyrinthiques d'une des dernières scènes qui est une scène de l'auberge. Où là, il y a tous les choix qui se subdivisent et ils se retrouvent complètement perdus dans ce labyrinthe. Donc, cette perdition mentale, finalement, est figurée par tous ces bâtiments et la déformation qu'ils induisent. Donc, alors ça, ce sont d'autres images. Donc, pour conclure, en fait, avec cette technique de la gravure sur bois, finalement, Olivier Depré, qui a été formé à l'atelier gravure, a dit que c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est vraiment senti graveur, qu'il a trouvé une esthétique à travers laquelle il était très proche, il sentit bien dedans. Donc il reprendra cette esthétique-là, même quand il reprendra, comme il réutilisera des peintres de la modernité, comme Malevitch. Donc tout ça pour dire que le travail d'adaptation pour Després, ça a été autant une voie, un moyen de trouver, de se confronter à l'écriture de Kafka, retraduire tout ce qu'elle pouvait dire, mais aussi trouver sa propre expression à lui. Et ça a été en fait se chercher tout en cherchant l'écriture de Kafka. Voilà. Merci.